pornographie.
Jeune, oui, mais plus maintenant. Parce que je m'y retrouve pas, en fait.
J'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me correspondait, en fait, parce que c'est très... Je me suis plus intéressée à du porno féministe, en fait.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zoom Zoom Zen. Cet après-midi, un frisson d'extase me parcourt l'échine et j'ai soigneusement sélectionné le mot en in le moins choquant afin que ce programme reste tout public, puisqu'on va zoomer, oui, on va zoomer sur un phénomène peu documenté car encore assez tabou, la consommation de porno chez les femmes. Car oui, les filles aussi regardent du porno et même de plus en plus, une information qui a tellement surpris Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef filloniste, qu'il en est tout simplement tombé à la renverse. Raison pour laquelle il ne sera pas des nôtres aujourd'hui, même si, je rassure ses fans, il a pris soin de nous enregistrer un doux assort sur le thème du jour. Évidemment, un thème qui donc visiblement dérange. Pourquoi ? C'est la question qu'on va se poser avec notre invité qui a forgé le terme pornographie pour désigner la manière qu'ont les femmes de consommer du X. Alors évidemment, il y a autant de manières de consommer le porno qu'il y a de femmes. Prenons au hasard Manon Mariotte.
Oui, au hasard.
Celle que les tenanciers de débit de boisson de l'Est parisien appellent la Marianoche et son conjoint la taupe avinée. Quand elle rentre bourrée à 4h du mat en se heurtant à chaque meuble, car il n'y voit plus rien, faut le rappeler. Eh bien, contrairement à l'image qu'elle tente de donner sur cette antenne, image polissée, Manon ne passe pas ses journées sur le site du New York Times. Il lui arrive parfois de passer en navigation privée et de s'abandonner aux délices du site X-Hamster et ses catégories si pittoresques.
MILF, trans, BDSM, bien membré,
Depuis la nouvelle loi qui contraint l'utilisateur à un contrôle d'identité sur les sites réservés aux adultes, ça, il faut faire une photo. Manon perd un temps fou puisqu'en effet, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête, mais s'agissant de sites pornographiques, elle se croit obligée de prendre des selfies coquins. Pourquoi ? On ne sait pas. Ça retarde considérablement le plaisir puisque le temps de trouver le bon angle, le bon éclairage et le bon accessoire, barésie, fruits à forme suggestive, pince à urètre, enfin vous connaissez. Il s'écoule souvent un bon quart d'heure avant qu'elle n'accède à la première vidéo dont le titre, heureusement, est rarement décevant.
Visage juteux.
Alors, les femmes ont-elles toutes une manière aussi singulière de regarder du porno ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
On était dans le vrai, non ?
Cette histoire de mise en scène pour les selfies, je trouve
vraiment. Parce que tout ça part d'une vraie confidence de Manon.
Non, mais... Non, ah oui. Anecdote modifiée.
Très bien. Bonjour, Jeanne Roussel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi sur Inter. Vous êtes journaliste au journal Le Monde. Vous écrivez pour les rubriques Intimité et L'Époque. Et vous venez de sortir un livre très intéressant sur un sujet donc très peu abordé. Ça s'appelle Pornographie, comment les femmes consomment du porno aux éditions d'Alva. Vous dites que les jeunes filles et les jeunes femmes consomment de plus en plus de porno malgré les tabous. Leur consommation s'approche même de celle des hommes. Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux journalistes dont je vous donnerai hors antenne les pseudos qu'ils utilisent sur OnlyFans. Pour l'heure, et dans le cadre professionnel, appelons-le simplement Manon Mariani et Quentin Louis. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Mathieu.
À vos côtés, Jeanne Roussel, elle profite encore tant qu'elle peut des merveilles de X-Hamster, X-Vidéo et autres sites plus spécialisés comme Big Blacks and Tiny Blondes, puisque bientôt, son ophtalmo lui a confirmé c'est en braille qu'elle consommera la pornographie. Voilà. Manon,
ça va être compliqué. Bon. Hein.
Ouais, ça peut être intéressant.
Il n'y aura pas de son,
c'est différent.
On testera.
Expérience sensorielle. Manon, chaque après-midi, vous nous envoyez une pièce jointe qu'on ouvre toujours avec beaucoup d'émotion.
J'espère bien. Un compte Instagram aujourd'hui que j'aime beaucoup, il s'intéresse à la sexualité féminine et donne même des conseils aux hommes sur des notions qu'ils connaissent mal, comme le clitoris, le point G ou encore le consentement.
Le petit tacle est arrivé, je n'avais pas vu venir. Face à vous, Jeanne, l'heure n'est pas encore venue de dévoiler les secrets de son compte Mime, même si je vous donne un indice, disons que si vous tapez la bûche d'Alençon dans la barre de recherche, vous n'allez pas tomber que sur des profils d'ébénistes.
Mais c'est parce que je suis un bûcheur.
Merci. Oui, je ne sais pas de vous rattraper. Quentin, chaque matin, vous partez à la rencontre des passants, ce qui impressionne toujours Cyril, qui déteste les passants, pour les faire réagir à notre phénomène du jour. Alors, le pornographie, ça les a inspirés ?
Franchement, je pensais que ce serait beaucoup plus difficile de parler dans la rue de porno. Et honnêtement, vous devrez essayer un jour, c'est assez intéressant. Qui de mieux qu'un inconnu pour se confier ses petits kings derrière les navigations privées ? Vos réponses et vos confidences aussi, c'est dans la prochaine demi-heure.
Vous devriez essayer. Mais
on fera ça ce week-end.
Ouais, bien sûr, vraiment. Mais vous êtes
payé pour
le faire.
Quelqu'un, vous lui dites, et vous regardez quoi en porno ?
Mais pourquoi faire, Quentin, vous êtes rémunéré pour ça.
S'amuser.
Très bien. Aux alentours de 16h30, l'occasion était trop belle, en tout cas pour mon auteur Gérald Darnaud, dont l'humour s'est forgé dans les années 90 au contact des géants du rire, comme Jean-Marie Bigard et Lagaffe. Le Zoom Zoom Test sera consacré aux versions porno des grands classiques du cinéma, de Position Impossible, aux glandes siciliens.
Attends, ça existe ?
Oui, ouais, tout existe, sinon ça peut-être pas drôle. En passant par l'incontournable Gorille dans la Brune, on verra qui est le plus cinéphile de la bande. Juste avant 17h, c'est Lisa Perriot, certainement grimée en Lisa Porno, actrice X sur le retour, qui nous rejoindra. Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur le phénomène drag queen de niche à mainstream avec deux bons amis de Pierre Courade, Paloma et Lolita Banana. Mais d'abord, zoom sur les filles et le porno. Jeanne Roussel, d'où vient cette idée que les femmes ne regarderaient pas ou ne devraient pas regarder de porno ?
Alors, d'où vient cette idée ? J'avoue que je ne sais pas, parce que je suis née dans cette idée que les femmes n'étaient pas censées même profiter de leur sexualité toutes seules. Et le porno s'inscrit dans une manière de profiter de la sexualité toute seule. Pardon. Je pense que la société, elle a beaucoup de mal de toute façon avec l'idée de la représentation sexuelle et donc du porno. Mais encore plus chez les femmes, parce que les femmes sont censées... partager la sexualité avec les hommes dans un but quand même encore très reproductif.
On va y venir, mais c'est le côté solitaire qui dérange. C'est pas tellement la pornographie en elle-même, c'est le fait que les femmes puissent prendre du plaisir solitairement en mettant du porno sans l'intervention d'un mâle.
Ça, c'est la base du problème. Et le fait qu'elles regardent du porno et qu'elles se dévergondent en regardant du porno, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire.
Face à vous, Jeanne, une chaise vide. Usé par le poids de celui qui l'occupe habituellement, mais vide. Est-il vraiment tombé dans les pommes en découvrant que les femmes regardaient du porno ? Est-il en train de subir une énième intervention du dos afin de retrouver un semblant de mobilité ? Ou bien est-il dans une cellule de dégrisement du commissariat du 1er arrondissement où il croupit depuis qu'il a pris une voie de bus sous le nez des flics, mercredi ? Une chose est sûre, dans sa folie, dans son hubris, sentant son incarcération proche, Cyril Lacarrière a eu la présence d'esprit d'enregistrer son doux assort du jour. Je vous propose donc que l'on écoute, juste après, la question que tout le monde se pose. Cyril, pornographie, d'où ça sort ?
Eh bien, imaginez une époque où le plaisir féminin n'existe pas, ni dans les livres, ni dans la loi, ni même dans la langue, sans mauvais jeu de mots. Pendant des siècles, la sexualité des femmes, ce n'est pas une expérience sensorielle, mais c'est une fonction. La sexualité des femmes, ça sert à procréer. Dans la Grèce antique, le plaisir masculin est partout, on le représente, on le revendique, même les philosophes en parlent. Le plaisir des femmes, en revanche, rien, silence radio. Et puis, l'Église catholique s'en mêle. Saint Augustin a écrit que le désir sexuel féminin est une conséquence du péché originel. Vous savez, quand Adam et Ève ont croqué dans la pomme. Bon, et bien pour saint Augustin, Ève, c'est l'entrée du désordre dans le monde et à travers elle, les corps des femmes. Là où le plaisir masculin peut être maîtrisé, le plaisir féminin, lui, est incontrôlable et donc potentiellement diabolique.
Jésus te baise ! Laisse-moi !
Voilà. Je ne vois pas ce que Manon Mariani va faire dans cette chronique, mais enfin, pourquoi pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que la médecine s'y met aussi.
Oui, puisque jusqu'au 19e siècle, les médecins parlent de la frigidité naturelle des femmes. Entre le 16e et le 19e siècle, la médecine considère que les femmes ont un organe instable, c'est l'utérus dont ils parlent, et qu'il peut provoquer chez elles des crises, des angoisses, des convulsions. C'est comme ça que les femmes sont diagnostiquées comme hystériques. Dès lors qu'elles expriment du désir, une forme de liberté physique, hop, elles deviennent hystériques. Alors fatalement, avant que l'idée se répande que les femmes puissent regarder des contenus pornographiques, il en a fallu des évolutions et même des révolutions qui sont passées par des grandes personnalités, des séries, des comptes Instagram, des podcasts, et c'est justement le début de notre histoire.
Merci Cyril, où que vous soyez, des toilettes visiblement, ça a résonné un petit peu. Jeanne Roussel,
comme d'habitude,
tout part en fait de cette idée que les femmes n'ont pas de désir sexuel, ou en tout cas ne doivent pas chercher de plaisir dans l'acte sexuel. Tout ça, ça nous vient quand même de notre tradition judéo-chrétienne. Ça remonte à la Bible.
Oui, alors j'avoue que j'ai pas lu la Bible. Je suis désolée.
Moi non plus, mais on sent que ça infuse et que ça, jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression d'être libéré, on a l'impression d'avoir franchi d'avoir aboli plein de barrières, mais en fait, il y a un fond de ça qui persiste encore aujourd'hui en 2025.
Ouais, complètement. Et qui d'ailleurs se raconte et s'inscrit. Alors, je suis pas remontée aussi loin que la Bible. Je suis allée que jusqu'au XVIIIe siècle.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, avec une chercheuse qui racontait à quel point c'était impossible de raconter pour les femmes qu'elles prenaient qu'elles désiraient en fait. Une femme qui désirait était une prostituée. Et le seul moyen de prendre du plaisir, c'était de prendre du plaisir dans la contrainte. Et d'ailleurs, c'est des scénarios qu'on retrouve énormément dans le porno aujourd'hui. Et
donc moi, dans la contrainte, donc dans du viol.
Ouais, exactement. Et donc même les femmes écrivaines au XVIIIe siècle, quand elles racontaient des scènes de sexe, elles se mettaient en scène comme étant violentées. C'est la même période que le Marquis de Sade, mais c'est des femmes qui ont été quand même largement invisibilisées après. Leurs écrits sont largement oubliés, malheureusement. Mais je trouvais ça intéressant parce que aujourd'hui, on critique beaucoup ces scénarios très patriarcaux qu'on associe beaucoup à notre société, à notre réalité, à aujourd'hui en fait. alors que ça existait déjà au XVIIIe siècle et je pense bien avant, mais j'ai pas...
Vous parlez du tabou sexuel féminin en héritage, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a ce tabou sexuel qui existait déjà typiquement au XVIIIe siècle, il a continué à se transmettre de génération de femme à femme, et qu'on a continué à ne pas en parler. On ne parle pas de sexualité féminine, les mères et les grands-mères ne parlent pas de sexualité féminine entre elles.
Pardon, je pose une question naïve, n'étant pas une femme. Vous-même, votre génération, vous ne parlez pas de ça avec vos parents ou une fille ne parle pas à sa mère de ça ?
Très très peu. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que j'en ai discuté hier avec ma mère, qui m'a annoncé qu'elle venait de terminer le livre, et on a eu une grande discussion sur ça, et sur le fait qu'on n'en avait pas parlé.
Bah, preuve qu'on peut avoir cette discussion.
Pas. Il faut tout à fait.
Il faut la solliciter.
Et je me suis dit que c'était dommage de ne pas avoir eu cette discussion avec elle avant d'écrire le livre.
Pardon, mais même au collège les filles ne parlaient pas de masturbation, là où les garçons...
En parlent volontiers, sur le ton de la blague, souvent, mais on en parle. Quoi.
C'est un vrai truc.
Enfin, la masturbation, je pense que nous, on a commencé à en parler, j'avais 25 ans, quoi. Ouais. Avant, pas du tout. Et ça nécessitait de sortir de... Pour moi, en tout cas, d'une honte de le faire, alors que je le raconte dans le livre, je me masturbe depuis que j'ai 3 ans, donc...
Et les garçons n'ont jamais vu aucun problème, enfin peut-être à une époque, mais enfin ça fait très longtemps que les garçons se masturbent et en parlent assez librement, sans problème.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Le porno et les femmes, ce n'est pas un oxymore. C'est notre sujet du jour dans Zoom Zoom Zen et l'objet de l'enquête de Jeanne Roussel, journaliste au Monde, dans son livre Pornographie, paru aux éditions d'Alva. Jeanne, est-ce qu'il y a des chiffres qui existent ? Est-ce qu'on sait quelle est la proportion des femmes qui regardent du porno ?
Ouais, il y a des chiffres. Je les cite au début du livre. C'est assez indigeste, donc j'ai un peu tout mis d'un coup. Les chiffres varient en fonction des études, évidemment. Mais dans une étude française menée par l'IFOP, ils estimaient à peu près à 35% des femmes qui en regardaient. Et on arrive à, sur des enquêtes américaines, parfois à 80%.
Ah oui.
C'est très variable.
Et j'imagine que c'est générationnel aussi, non ? Enfin, il y a des tranches d'âge qui regardent plus le porno. C'est les jeunes femmes qui regardent du porno ?
Oui, il y a quand même... Enfin, c'est plus chez les jeunes que chez les... Seigneur.
Est-ce que, là vous parlez 35%, d'autres en donnent 80%, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une honte aujourd'hui à assumer qu'on regarde du porno en tant que femme ?
Alors ça, j'en suis absolument persuadée. Ouais. Et rien que la manière dont j'ai mené l'enquête et la difficulté que j'ai eue à recueillir des témoignages, en tout cas au début, je suis vraiment persuadée qu'il y a encore beaucoup de honte qui pèse sur
Pourquoi
les femmes.
Pourquoi les femmes ne voulaient pas vous en parler ?
Ben... Enfin, moi, j'ai l'habitude de faire des appels à témoins sur les réseaux sociaux. Et généralement, ça mord très vite. Et je fais beaucoup de sujets en lien avec la sexualité féminine ou en lien avec la sexualité tout court. Le porno, c'était... Enfin, les gens me répondaient même parfois en rigolant, genre, mais est-ce que tu penses vraiment que tu vas avoir des témoignages avec ce genre de... Enfin, j'ai jamais eu autant de flops avec mes appels à témoins que sur ce sujet. Et c'est dans l'intimité. En fait, il y avait une fois qu'il y a eu un espèce de truc de bouche à oreille et de confiance. Une fois que je parlais avec une fille qui avait confiance en moi et qui me envoyait vers une deuxième fille, ça a permis de libérer un peu les langues. Et bien sûr, la question de l'anonymat. Enfin, c'était.
Ouais. Autant pour les garçons, on en a un petit peu parlé, il y a une forme de rite initiatique, une sorte d'acte de passage quand ils regardent un porno pour la première fois. Autant avec les filles, comment ça se passe ? Comment une fille tombe sur du porno pour la première fois ?
Alors, il y a plusieurs, évidemment, il y a plein de scénarios, mais les garçons sont souvent à l'initiative. Ils vont vachement en parler dans la cour de récré. Ouais.
Et montrer peut-être des vidéos.
Ouais, montrer des vidéos.
Sur le portable, j'imagine.
Ouais, sur le portable. Sur le portable, et même avant la génération qui a le portable au collège, il y en a qui racontent que juste les évocations permanentes des garçons dans en cours faisaient qu'un jour...
Ça suscite la curiosité.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et un jour, elles sont allées voir à quoi ça ressemblait.
Quel style de porno regardent les femmes ?
Plein de styles de porno. Il y a autant de femmes que de...
Donc elles ne regardent pas du porno éthique, comme on peut le croire bêtement.
Il y en a qui regardent, évidemment, mais non, c'est pas... Enfin, là, en plus, le livre traite beaucoup de la question du porno mainstream. Et la plupart des femmes avec qui j'ai parlé regardent du mainstream.
Certaines vous expliquent que c'est en voulant s'informer aussi sur Google qu'elles sont tombées sur du porno, par exemple, en tapant clitoris, en tapant fellation. Ça dit aussi que le manque d'éducation sexuelle, en fait, pousse à la consommation de porno, d'une certaine façon.
Ah, complètement.
Il y a un vide à combler, quoi.
Ah oui, mais complètement. Complètement. Et c'est d'ailleurs le sujet, c'est le sujet de fond du livre, c'est de raconter pourquoi on arrive devant du porno quand on est une femme, mais je pense quand on est un homme aussi, hein, un garçon aussi. L'idée, c'est d'avoir, on a besoin d'une représentation sexuelle, et la seule, le seul média qui l'offre, bah, c'est le porno, donc on finit par atterrir dessus.
Vous, c'était Quentin. L'objet, c'était le porno, donc quand vous questionnez les femmes, c'était est-ce que vous regardez du porno ? Est-ce qu'il y en a qui vous ont répondu que c'était plutôt la littérature, le podcast, d'autres supports qui sont pas de la, qui sont pas du porno ?
Ouais, mais c'était pas...
Ce sont pas des films, oui.
Il y a très peu de femmes, voire aucune, je crois, qui n'a pas du tout regardé d'images pornographiques. Parfois, elles sont arrivées au porno, donc aux images pornographiques, par le biais de BD ou de livres érotiques, voilà. Et pour nombre d'entre elles, elles se sont détournées des images pornographiques après réflexion et après, parce qu'elles le vivaient hyper mal, pour retourner vers d'autres types de médias, enfin, pornographiques ou érotiques, comme l'audio-érotique, voilà.
C'est peut-être, en parlant d'audio érotique, ça me fait penser peut-être le moment de briser cette espèce de mythe qu'il y avait une époque que les femmes jouissaient par l'oreille et que donc la lecture de livres érotiques ou l'écoute de podcasts était plus forte que la visualisation d'images. C'est complètement con, ça.
Bah, moi, j'y crois pas trop, ouais.
Non, mais ça, de ce que les femmes vous ont dit, c'est...
Ah oui, non. Et d'ailleurs, l'audio érotique fonctionne chez assez peu d'entre elles.
D'accord. Profitez-en, Jeanne, tant qu'il en est encore temps. Ces tarifs sur Mime sont encore abordables. 20 euros, le pass mensuel illimité. 5 euros pour l'accès à cette vidéo où il enlève tout, sauf le casque. 10 pour celle où son copain Polo le soulage d'un petit problème de dard.
C'est pas vrai.
C'était une question. Je rappelle, c'était la fois où vous étiez piqué par un Polo.
Oui.
Effectivement, et votre copain Polo était là.
Il y a des vidéos qui existent.
C'est vrai. C'est un très bon rapport qualité-prix. Hein. Bon, bref. Quentin, vous êtes aussi journaliste spécialiste micro-trottoir de Zoom Zoom Z. Dans la rue, les gens savaient-ils que les femmes aussi consommaient du porno ?
Je suis attablé sur la terrasse d'une boulangerie à qui j'ai commandé un café ce matin avant d'arrêter les gens. J'ai le livre de Jeanne dans la main et c'est toujours un peu délicat d'aborder des sujets intimes avec des inconnus. Et en même temps, c'est presque plus facile que si c'était avec des proches. C'est curieux, je commence avec ces deux copines.
Pornographie.
Jeune, oui, mais plus maintenant. Parce que je m'y retrouve pas, en fait. Ouais, des fois, c'est très, très axé autour de l'homme et autour de... Voilà.
Allez-y.
Tu peux ? Oui. Bah, autour de la bite, du coup. Et du coup, bah, c'est très hétéronormé et très axé pour les hommes hétéros. Et du coup, bah... Ouais. Ça ne chauffe pas toujours. Donc...
Et pour sa copine qui l'écoute, c'est un peu pareil.
J'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me correspondait, en fait, parce que c'est très... Je me suis plus intéressée à du porno féministe, en fait. Ouais, des gens qui étaient vraiment rémunérés aussi, qui étaient militants et qui... Ça me parlait plus, en fait, du porno queer, du porno féministe, en fait, des choses engagées qui, du coup...
C'est pas filmé pareil,
en fait.
Ouais. Eh oui, c'est pas filmé pareil. Elle aborde aussi un truc important pour elle en tant que consommatrice.
Moi, personnellement, il y a un truc un peu de violence qui est ressenti aussi à l'écran, où je me dis j'ai plus confiance en un porno féministe qui aura du coup payé ses actrices correctement, qui aura respecté leur consentement aussi. Parce qu'en fait, moi, quand je vais le regarder, je vais me sentir plus à l'aise et plus en confiance. Je sais pas, il y a un truc un peu... Enfin, c'est un truc de l'intimité quand même, enfin... Et je trouve que dans le porno mainstream, Pornhub, tout ça, je sais pas comment ça a été fait. Est-ce qu'il n'y a pas des violences derrière? Enfin, j'ai pas envie de regarder ça ni de cautionner ça, donc voilà.
Regarder un contenu où l'on sait que le tournage a été fait dans de bonnes conditions, où tout était ok et consenti, permet de pouvoir se détendre et apprécier le moment. La pornographie, ça doit aussi pouvoir être ça. J'arrête cette future maman maintenant. Elle n'est pas loin du congé mat, je pense. Pour elle, une femme qui regarde du porno, c'est pas pareil.
On est plus jugé, alors que finalement... Ça reste un moment de plaisir, qu'il soit féminin ou masculin, quelle que soit la personne qui le regarde. Par contre, une femme qui regarde du porno va peut-être être plus cataloguée comme, je vais être vulgaire, mais comme une salope, une pute, une nymphomane, alors qu'un homme, finalement, c'est une norme pour lui. Comme les actrices porno, les actrices qui font du porno sont des putes, les hommes qui font du porno... Typiquement, Clara Morgan, on la questionne beaucoup sur « mais qu'est-ce que tu diras ou qu'est-ce que vous direz à votre fille ?» Est-ce qu'on a questionné Rocco Siffredi sur ses enfants, sur qu'est-ce qu'il dira à ses enfants plus tard ?
Hey, c'est vrai que c'est une différence. Tiens, allons voir la jante masculine maintenant, histoire de voir si ça bouge un peu. Ce jeune homme, par exemple, veste moumoute Patagonia, petite moustache et casquette rouge.
Pornographie, comment les femmes consomment du porno ? De Jane Russell. C'est un joli titre, joli titre.
C'est quoi un bon porno ?
Un bon boulard, c'est quoi ? Faut un scénar un peu quand même. C'est un peu chiant quand c'est direct comme ça dans le vif du sujet. Faut un scénar un peu pour te mettre dedans. J'avoue que ça là-dessus, je consomme un peu tout type de scénar. Genre. Tout produit. Hein. Ça va du classique plombier à tout ce qui se fait dans tous les métiers, les corps de métier. N'importe quel corps de métier. J'avoue, quand c'est un corps de métier, c'est sympa aussi.
Plutôt artisan, plutôt...
Plutôt artisan. Oui.
Le côté secrétaire, peut-être aussi.
Ah, bien, c'est bien, ça. Ça, j'avoue, j'aime bien. Ouais. Ça, j'avoue, j'aime bien aussi.
Ouais. Il me confie, parce qu'on est dans les confidences, vous le sentez bien,
coquin, dis donc.
Que ça peut être marrant.
Le plus drôle, c'est les scénars mal joués. C'est mal joué, tu pars de, tu vas acheter une courgette, tu te fais sucer dans un rayon, c'est drôle, c'est marrant.
Quoi d'autre ? Une actrice ?
Pas.
Un acteur ?
Y'a rien qui me vient. Un acteur, le classique, le français Manuel Ferrara, le frère. C'est un peu notre père à tous finalement quand on regarde de ce point de vue-là.
Pourquoi ?
Parce qu'il est partout, il est partout. Avec son énorme chibre, il est partout.
Voilà. Sommes-nous surprenants, nous les hommes ? C'est une question qu'on peut poser en 2025. Eh bien, très rarement. Tiens, je l'interroge sur sa consommation de porno.
Je sais pas, c'est peut-être un ou deux par semaine.
Tu es en couple ?
Oui.
Et elle, tu sais si elle regarde du porno aussi ?
Non, je pense pas.
Elle te demande par exemple ce que tu regardes, non ?
Non.
Ah, donc c'est un peu tabou ?
Ouais, c'est un peu tabou quand même.
Ah ouais.
Je sais pas, c'est un peu ton moment à toi, quoi. Tu veux pas forcément dire, ok...
Ce serait assez peu convenu d'arriver et de dire, bon bah je reviens dans 15 minutes, je vais m'enlever.
J'ai regardé un bon porno là, laisse-moi 15 minutes.
Laisse-moi 15 minutes. On voit, et on l'entend, qu'il y a un réel décalage dans la consommation de porno entre les hommes et les femmes. On l'a entendu avec ces quelques rencontres. Elle cherche plutôt du respect, du consentement, de comment ça va être fait, du vrai. Eux, plutôt du rythme, du réflexe, du rapide. Bref, on ne regarde pas le même film et encore moins la même histoire.
Merci
Quentin pour ces belles trouvailles au hasard des rues. Je ne suis pas d'accord avec vous Quentin, avec votre analyse. Je vais demander à Jeanne, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les femmes aiment tout le porno éthique. Je pense qu'il y a des femmes, il y a autant de désirs de porno que de femmes. En fait. Je pense qu'il y a des femmes qui adorent le porno du gonzo. Ça doit exister aussi, qu'est-ce que vous en pensez Jeanne ? Oui, bien sûr. Ouais, ouais.
Ben, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que celle qui en parle le plus facilement, et surtout à un micro de France Inter, c'est en fait, on peut dire je regarde du porno féministe parce que je veux que les actrices soient bien payées, respectées, etc. Ça, c'est un discours qui est vrai et qui est, enfin, que j'entends à 100% et que j'ai entendu aussi, bien sûr, pendant les témoignages, mais qui est, entre gros guillemets, facile à tenir.
Ah oui.
Alors que dire, je ne sais pas si c'est un masque ou si c'est une manière d'être aligné avec ses valeurs jusque dans l'intimité, mais dire en fait moi j'adore les gangbangs et les beats surdimensionnés, c'est hyper compliqué.
Mais ce qu'elles disent aussi, et ça pour le coup je suis plutôt d'accord, c'est que trouver un porno qui peut plaire aux femmes, c'est quand même quelque chose de compliqué. Il y a beaucoup de vidéos qui sont centrées sur les hommes ou des POV, etc., qui sont centrées sur la femme, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas.
Peut-être rappeler ce qu'est un POV.
Oui, c'est point of view, depuis la vision de l'homme.
Tapez ça sur XMSR, vous allez trouver
quelque chose. Mettez la photo de Manon.
Du coup, c'est vrai que... Ça va pas.
Mais non, pour l'identification, pour accéder au site, bien sûr.
Bref, non, mais du coup, c'est difficile aujourd'hui de trouver aussi sur les sites porno mainstream du porno pour les femmes.
Oui, mais aux femmes. Pourquoi on parle de porno qui plaît aux femmes, qui soit pour les femmes ? Enfin, la plupart des femmes avec qui j'ai discuté, elles aiment
le porno tel qu'il est.
Oui, elles n'ont pas forcément de problème avec l'angle patriarcal qu'il y a dans le porno.
Ça, c'est le témoignage plus compliqué à trouver. Vous avez raison, je pense qu'on peut plus facilement tenir un discours presque raisonné pour une femme, celui que j'ai eu par exemple. Il y en a une qui me dit « celle qui regarde va être jugée ». Elle prend l'exemple de Clara Morgan qui est finalement toujours ramenée à ça alors qu'elle n'a pas fait que ça dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y a moins d'icônes porno aujourd'hui. Est-ce que ça change quelque chose à ça ?
C'est une bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas trop...
Je sais pas, il y a quelques années, on disait Clara Morgan, on disait Katsumi, etc. Mais aujourd'hui, on a moins de références. Est-ce que ça change ?
Ouais, alors je suis pas une experte des références de figures féminines. Alors peut-être que du coup le fait que en ayant travaillé aussi longtemps sur ce sujet, je n'ai pas tellement d'icônes féminines de la pornographie en tête. C'est peut-être une manière de répondre à votre question.
Et ces femmes que vous avez interrogées, qu'est-ce qu'elles recherchent dans les films porno ? Elles vous en ont dit quoi en fait ? Elles recherchent juste le plaisir, la masturbation ?
Ouais, en fait c'est aussi simple que pour les mecs. Elles recherchent juste un moment de désir et de plaisir rapide, efficace, simple. Un moment de décontraction qui va leur permettre de, bah, juste de se descendre, quoi.
Et on parlait du regard des autres qui pèse encore sur les femmes. Est-ce que ce regard, il pèse aussi au sein des relations amicales entre filles ? C'est-à-dire, vous, entre filles, ou les femmes que vous avez rencontrées, elles parlent entre elles dans les soirées filles ? Vous parlez des films porno que vous avez regardés, des séquences porno que vous avez regardées, ou c'est encore un tabou même entre vous ?
Ouais, c'est encore un tabou entre nous. Et il y en a qui racontent, dans le livre d'ailleurs, qu'elles en ont parlé avec des amis à elles, qui les jugent, qui ouvertement, qui leur disent mais pourquoi tu regardes ça ? Ça va pas ou quoi ? Pourquoi tu regardes ça ? Il y a, enfin, c'est encore un sujet compliqué, et je pense que ça le sera, enfin, malheureusement toujours. Hein, c'est, ouais, c'est, il y a, en fait, il y a plusieurs camps. Il y a celles qui veulent être absolument alignées et qui feront partie sûrement de celles qui regarderont du porno éthique et qui le prôneront. C'est beaucoup plus facile à prôner quand on regarde du porno éthique, et celles qui ont trouvé du plaisir facile
ailleurs et
dans
qui ont
du
pas trop envie de communiquer là-dessus.
Et ouais, voilà, et qui sont jugées.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Que penser des dernières recherches Google de Manon Mariani ? Meilleur VPN gratuit, Pedro Pascal Deepfake X, sexe de groupe Pologne. Bon, probablement rien. Quoi qu'il en soit, Manon, vous ne devriez pas avoir, comme d'habitude, de difficultés à remporter ce quiz, même si Quentin pourrait vous donner du fil à retordre, celui qu'on appelle la bûche, surnom hérité de ses prestations dans quelques productions amateurs, Made in Normandie, et où ce n'était pas le cidre qui coulait à flot. Bref,
pour ce quiz,
je vais vous pitcher des films coquins. À vous de me trouver leur titre, sachant que ce sont tous des versions X de films célèbres comme Jurassic Porn ou Ass Wide Shut. Vous avez le principe ?
Oui.
J'espère que nos collègues du Masque et la Plume écoutent. Top 7e art. Voici le premier pitch. Tony et son équipe, une bande d'amateurs de belles mécaniques et de gros engins, s'affrontent dans des compétitions. Et c'est ici pas de respect ou de thunes qu'on gagne.
Ass and Curious.
Non, mais la partenaire de son adversaire. Gros dérapage au frein à main garanti. Vous aurez reconnu effectivement la version hard de cette saga baptisée au Québec Rapide et Furieux.
Ah, j'étais pas
Fast
mal.
Fast and Curious.
C'est plus nul que ça. Ass and Furious, moi j'aurais voulu, mais c'est pas ça. Non.
C'est pas ça.
C'est pas le titre du vrai film, on cherche des vrais films. Fuck and Furious, bonne réponse de Manon. Une production pourrie bien de chez nous, puisque signée du célèbre Fabien Lefay. Vous n'y trouverez pas Vin Diesel, mais les non moins célèbres Tony Carrera et Cynthia Lavigne, sensation forte garantie. Et non, Quentin, je ne vous demande pas si vous aviez la VHS, je le sais, votre grand-mère me l'a dit. Elle vous a d'ailleurs souvent surpris en train de visionner et revisionner ce chef-d'œuvre alors que vous étiez censé réviser votre brevet.
Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre.
Pas étonnant que cette année-là, votre prof principal ait tenté de vous dissuader de passer le brevet. Mais remontons sur le waterbed du Gai Savoir. Ah, ce son, mon Dieu. Ah ben voilà, Cyril qui nous écoute depuis sa cellule de dégrisement a eu un orgasme rien qu'en entendant le jingle canal. Pauvre vieux, en plus il a rien pour se changer. Bref, deuxième pitch. Après la mort de Joe l'Increvable, ex-tenancier de Maison Close, rangé des filles de joie, ses anciens associés se lancent à la recherche de son magot. Marlène, la fille de Joe, s'y intéresse aussi. Un incontournable réunissant les plus célèbres gâchettes du X français, faut reconnaître que c'est du brutal, ça éparpille aux quatre coins du plumard, façon puzzle.
Okay.
Et les bons pornos, ça ose tous, et même à ça qu'on les reconnaît. C'est ce classique
Michel
des classiques. Adaptation du plus célèbre film de d'Audiard et pas de Jack, c'est, je vous donne trois possibilités.
Les tontons baiseurs.
Elle cause plus, elle baise. Les tontons tringleurs. Ou un taxi pour ton cul.
Mais ah, c'est bon, ouais. Vous me le laissez quand même celui-là, non ?
C'est Quentin. Il avait tellement envie d'avoir la bonne réponse, il l'a eu.
Je crois qu'il le connaît, mais.
Réponse bon. B, oui, une pépite intergénérationnelle et inclusive, puisqu'elle réunit actrices des années 90 et acteurs des années 70, dont le célèbre comédien monégasque Alban Serré, 800 films au compteur, qui lui vaudront le surnom chatoyant de La Bûche du Rocher, La Verge de Monaco. Ou tout simplement Queue de béton.
C'est Queue de béton, hein, c'est trop bien.
Ah ouais, B, c'est trop drôle. La verge
rien pour avoir cette phrase prononcée par Manon. Queue de béton, c'est trop bien. C'est une bonne réponse, Manon. Et qui osera dire que film coquin et poésie ne s'accordent pas à merveille ? Le film suivant est une adaptation très libre hein, d'un des films d'un réalisateur iconique de ces 30 dernières années. Je vous livre le pitch. Katia est ridiculisée et humiliée le jour de son mariage par son ancien amant. Après être sortie d'un long coma, la fiancée n'a qu'une seule idée en tête, se venger. Utilisant ses compétences sexuelle exceptionnelle, elle parcourt le monde pour retrouver et affronter un à un les membres du gang de son
M.
ex.
Mange, baise, M. Quoi ?
C'est osé, mais c'est pas ça, non.
Avec Julia Roberts, oui.
Climax story avec ce dernier, vous aurez reconnu l'audacieux film inspiré du classique de Tarantino.
Kill Bill ?
Oui, alors donc ?
Fuck Bill ?
Fuck Bill ?
Non. Trois possibilités. Nick Bill, Kill Beat, Ou kink, ou kink Bill.
C'est la B, c'est B, la B. B, c'est la mieux.
Ah, alors, ah, ouais. Je vais dire autre chose.
Ouais, B.
Ouais. La B était la mieux, mais malheureusement, les producteurs n'étant pas très doués, c'était la une. Nick Bill. Et je ne peux m'empêcher de penser que Quentin Tarantino, avec sa passion pour le film de genre, doit être flatté qu'un tel hommage lui soit rendu. Terminons en beauté ce quiz spécial pornographie avec une œuvre où le beau sexe, comme dirait Cyril, est à l'honneur. Un film choral de surcroît. C'est l'histoire d'une bande de copains qui se retrouve dans le milieu effervescent et excitant du Sentier à Paris. Cinq jolies et délurées demoiselles.
Si je
se rencontrent des demoiselles, elles décident de partager leur aventure sexuelle.
La vérité
si je bande. La vérité si je bande. Un bijou de niche qui, cela dit, n'arrive pas à la cheville d'autres chefs-d'œuvre du cinéma français comme Very Bad Trick ou Bienvenue chez les Ch'tis de Coquille.
Ah, celui-là, c'est mon préf.
Ah, celui-là, effectivement, c'est le mieux.
J'en avais
un savoureux dialogue.
Il y avait Le Seigneur des Anus qui était formidable.
Il faisait partie de ma liste également. Mais hélas, nous n'avons pas le temps car nous sommes le gai savoir, mais pas ton gré non plus. Vive l'amour du cinéma, vive le cinéma et victoire au la main de Quentin, lui.
Bon, j'ai eu plein de points.
Merci à tous.
Mais comme on ne le dit pas en rien, je vais vous dire quelque chose. Cyril Lacarré est en partie aujourd'hui, on ne communique plus les informations. Pierre Courade manque à tous ses devoirs. Si vous voulez devenir rédacteur en chef un jour,
il me parle à moi.
Pour qui, Pierre ?
Il me parle à moi dans le casque. Là,
il ne comprend pas les boutons.
Il parle dans l'oreillette, il parle dans le casque de Quentin.
Oui,
en plus, il écrit son petit carnet.
Il est en train de lui dire : mais qui je te parle là ?
Une femme devant un boulard, foutu wokisme, s'était exclamé Cyril Lacarré avant de claquer la porte de l'Open Space hier soir. La journaliste au Monde, Jeanne Roussel, est toujours avec nous pour son film Pornographie, comment les femmes consomment du porno, qui vient de paraître aux éditions d'Alva. Jeanne, vous rappelez dans votre livre une question que vous êtes posée pour un article paru dans Le Monde. Est-ce qu'on peut continuer de regarder du porno quand on est féministe? Pourquoi est-ce qu'il faut se poser cette question?
Alors, je pense pas qu'il faille se la poser, mais je pense qu'on se la pose sans vraiment trop le décider. C'est le premier truc qui vient, c'est toujours cette histoire de dissonance, de se dire je suis une femme, je suis féministe, je me bats pour que les femmes soient mieux traitées, reconnues, etc.
Et je regarde à côté de ça, du porno.
Ouais, et puis je regarde des femmes se faire maltraiter à l'écran. C'est pas cohérent et du coup qu'est-ce que ça dit de moi? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce qu'en fait je suis il y en a plein qui m'ont parlé d'être une fraude, d'avoir peur d'être découverte comme étant de mauvaise féministe.
Manon. Vous interrogez une jeune femme, Sina, qui vous explique qu'à force de visionnage fréquent de porno, ça l'a conduit à internaliser une culture du viol. Elle se positionnait comme un objet à consommer, à atteindre une performance, en fait, pour être désirable. Mm-hmm. C'est ce qu'elle vous dit. Pour les filles comme pour les garçons, est-ce que le porno, ça peut perturber quand même nos constructions sentimentales et nos constructions sexuelles aussi, surtout?
Ouais, complètement. Il y en a quelques-unes qui ont témoigné de ça, qui sont des exemples qui n'ont vraiment pas du tout été accompagnés sur la question de l'éducation à la sexualité, qui ont consommé du porno jeune et qui sont, entre guillemets, je ne vais pas dire tombés dedans, mais qui ont consommé tout de suite beaucoup, et qui n'avaient aucun autre point de repère et pas de moyen, du coup, de faire la part des choses. Après, c'est aussi des femmes qui ont réussi avec le temps à se construire un avis plus... à se détacher, en fait, de ces images. Et elles racontent aujourd'hui qu'elles n'ont pas... Leur vie n'a pas été bousillée par le porno pour autant.
Oui, mais le début de leur sexualité, oui.
Oui, complètement.
À l'inverse de ce précédent témoignage, vous rencontrez aussi Petra von Schatz. Qui est-elle?
C'est une actrice porno qui tourne, pour le coup, dans du porno éthique, alternatif, féministe, peu importe comment on veut l'appeler, et notamment pour la réalisatrice Anouchka, et qui revendique vraiment un droit d'utiliser son corps comme on veut, et qui est très fière d'être actrice porno, et qui est vraiment une figure que j'ai trouvée inspirante.
Quentin. Le porno, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, c'est pas que des films. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, de regarder, je pense, aux femmes qui peut-être auraient répondu non à votre question? Est-ce que vous regardez du porno? Non. Est-ce que, si elles veulent s'intéresser à ça, il y a des premiers supports qu'elles peuvent découvrir?
Alors, du coup, je pense aux films dans lesquels peut tourner Petra, mais c'est quand même vraiment du porno. C'est juste que c'est pas un,
c'est
un
c'est porno. Quoi, qu'est-ce qui change alors?
Mais on parlait tout à l'heure de POV. Typiquement, c'est un porno qui s'intéresse beaucoup au plaisir des femmes. Qui est respectueux de ces dernières, qui est beaucoup plus inclusif aussi. On voit beaucoup de corps différents, on voit beaucoup de façons de prendre du plaisir. On est moins quand même dans des scénarios patriarcaux.
Il y a des POV version femme dans ces pornos à elle?
Oui.
Ouais.
Oui, oui, oui.
Ce qu'on voit assez peu.
Oui, 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 ouais. Mais c'est, enfin, ce qu'on voit beaucoup dans le porno féministe, dans le porno éthique alternatif, mais qu'on voit effectivement assez peu dans le porno mainstream.
Pornographie, comment les femmes consomment du porno, c'est disponible chez Dalva. Vous écoutez France Inter, il est 16h45. L'heure de découvrir si elle s'y retrouve parmi ces centaines de pages, la pièce jointe de Manon Mariani.
Un compte Instagram aujourd'hui, il s'appelle Merci Beaucoup, il compte plus de 277 000 abonnés, il est dirigé par Léa, une sexothérapeute qui ose parler de sexualité féminine de façon déconstruite, pédagogique et sans tabou.
Si tu sens que ton plaisir et tes sensations bloquent juste avant un orgasme, comme si elles atteignaient un espèce de plafond et que tu pouvais pas le dépasser, essaye ce truc, inspire profondément par le nez et expire doucement par la bouche.
C'est pour les femmes, Mathieu, pas
besoin de le faire. J'ai le droit d'essayer de chercher mon plaisir, moi aussi, merci.
Léa aborde énormément de sujets concernant notre sexualité à nous, les femmes, et dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. En général, elle prend des messages qu'elle reçoit sur son compte Instagram pour en faire une vidéo, par exemple. Une jeune femme va lui dire qu'elle ne sait pas quoi faire quand elle est au-dessus de son partenaire. Pour lui répondre, Léa demande des conseils à sa communauté, elle ajoute les siens et elle en fait un post. Elle met aussi la notion de consentement au cœur de son propos. Avec la communication, dit-elle, c'est la base de tout.
Et ce compte, il est donc spécifiquement pour les femmes ?
Eh bien, pas que, parce que si il est principalement à destination des femmes, elle y parle aussi des hommes. Elle leur donne, par exemple, des conseils pour faire jouir leur partenaire ou comment être un partenaire sexuel safe et propose même des questionnaires à s'envoyer pour mieux comprendre l'autre et s'adapter à ses besoins. Merci Beaucoup est même devenue une marque à part entière puisque Léa a créé sa version site. On y retrouve des cours en ligne, des workshops, des jeux de couple et même des formations autour du désir, du consentement ou de la communication. Elle s'adresse en fait à toutes celles et ceux qui ont grandi avec une éducation sexuelle lacunaire, voire absente, on en a parlé. Les cours d'éducation sexuelle à l'école sont en baisse. À la fin de leur scolarité, les élèves n'ont eu qu'en moyenne qu'à 2 séances d'éducation sexuelle au lieu des 21 prévues normalement. Et pourtant, il y a une vraie demande. Selon une étude de l'UNESCO publiée l'année dernière, environ 71% des jeunes de 15 à 24 ans cherchent des informations sur la sexualité en ligne. C'est là où les comptes Instagram comme Merci Beaucoup sont importants et peuvent les aider. C'est toujours mieux que de regarder du porno bas de gamme.
Merci Manon. Dans cette émission, Jeanne Roussel, on dit toujours que l'éducation sexuelle devrait être plus présente, mais est-ce que la solution n'est pas plutôt dans des comptes comme ça? Parce que j'imagine que l'éducation sexuelle à l'école, les enfants vont encore pouffer de rire et tout ça, on ne va pas être dans le truc. Tandis que là, sur un compte d'une personnalité, ça peut être plus excitant et donc on peut plus écouter peut-être.
Moi, je les trouve super, ces comptes. J'en cite d'autres dans le livre, dans un chapitre qu'on avait appelé « Réseaux sociaux, réseaux sexo ». Il joue un rôle énorme parce que déjà c'est tout simplement un espace où on peut parler de sexualité, alors que dans les familles on peut pas toujours, à l'école on devrait le pouvoir mais c'est plus compliqué. Après il y a quand même des super éducateurs à la vie relationnelle, affective et sexuelle qui travaillent dans les collèges et lycées et qui permettent de parler de plein de sujets autour de la sexualité et du genre je pense qu'on est en capacité aujourd'hui de sortir de la pure prévention et des ados qui pouffent quoi, mais
on avance quand même un petit peu de ce côté-là aussi.
Mathieu Noël sur France Inter.
Il se prépare pour ce qui sera tout à l'heure l'apothéose de sa carrière audiovisuelle, remplacer Cyril Lacarrière dans le Lacar News. Un honneur dont il tentera de se montrer digne, surtout il essaiera de ne pas faire 12 minutes comme la fois où il avait remplacé l'animation du Zoom Zoom Test. Pour l'heure, il ne va faire qu'une minute, c'est son cahier des charges. Pierre Courade vous résume tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono. Donc.
Le timing doit être respecté, vous avez raison Mathieu, et je note que tout le monde a bien respecté son timing aujourd'hui. Bravo Quentin. Cet après-midi, on a parlé d'un sujet rarement abordé, le porno et les filles, plus précisément le rapport entre les femmes et le porno, un sujet qui a intrigué notre invitée, la journaliste Jeanne Roussel, qui en a tiré un livre enquête pornographie. Première découverte, les filles aussi regardent du porno, et même de plus en plus, jusqu'à rattraper la consommation masculine. Ce qui est étonnant, c'est que ça le soit, étonnant, ça l'est encore, parce que le désir et le plaisir féminin sont encore trop peu explorés. Les filles sont encore éduquées dans l'idée que le sexe ne sert qu'à procréer, donc aucune raison qu'elles aient des fantasmes, ou pire, qu'elles se masturbent. Et pourtant, d'après les dernières études, c'est entre une femme sur trois et près de 80% qui regardent du porno, une différence de chiffres qui qui s'explique parce que notre invité appelle le tabou sexuel féminin en héritage. Parmi les témoignages recueillis dans son enquête, une jeune femme qui explique qu'elle est tombée sur du porno en cherchant des informations sur la sexualité sur Internet. Le manque d'éducation sexuelle pousse les filles et les garçons à consommer du porno. Et pour les filles comme pour les garçons, consommer du porno sans connaissance perturbe la construction sentimentale.
Merci Pierre, la suite est dans le livre de Jeanne Roussel, Pornographie, comment les femmes consomment du porno, c'est aux éditions d'Alva. Et aujourd'hui nous recevons, je l'ai dit, Niki de Sampal. Je suis un peu, je dois le dire, émoustillé, un peu comme quand je glissais dans le lecteur CD le single Déshabillez-moi de Liane Folie.
Oh là là, quel enfer.
Et beaucoup de souvenirs qui remontent. Niki, vous allez nous raconter votre quotidien de créatrice de contenu pour adultes.
Oui, ben, je suis Niki, je fais du contenu pour adultes. Elles sont sympas vos chaises, d'ailleurs ça me change parce que d'habitude je m'assois sur des visages.
Oh, on est ravis. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours peut-être?
Oh bah j'ai un parcours tout à fait classique, bac S avec mention, prépa, école sup de biochimie, une thèse en neurosciences, mais en fait il n'y a pas d'argent dans la recherche. Alors j'ai commencé à montrer des bouts de pieds sur OnlyFans et puis ça payait mes courses, après j'ai montré mes seins, ça payait mon loyer. Et maintenant je monte tout mon corps avec des gens dedans et je suis propriétaire. Mais faut pas croire, hein, c'est l'investissement. Faut poster tout le temps, plusieurs fois par jour, répondre aux fans. Voilà, j'ai un nouveau message, Mathieu Christmas, tout ce qu'il veut. Est-ce que c'est grave si c'est rouge et que ça pique? Oh. Matt, je vais vous répondre en live, faut aller consulter en fait. Hein. Je suis pas une vraie infirmière, et comme j'ai pas vraiment de problème avec mon lave-vaisselle, faut faire la différence entre fiction et réalité.
Alors justement, c'est quoi la réalité de votre quotidien, Niki?
Ah bah, c'est un métier épuisant, comme un footballeur, faut avoir une condition physique au top, faut tout le temps faire des tests médicaux. Alors là, vous allez me dire, ah ouais, bah comme les footballeurs, vous gagnez plein d'argent, il y a des milliers de mecs qui vous regardent sur des écrans en faisant des bruits bizarres. C'est exactement ça. Oui. C'est un métier à risque, hein. Rien que là, j'ai 3 tendinites au poignet droit alors que je suis gauchère. C'est vous dire l'implication. En fait, on peut dire que je suis une entreprise à moi toute seule. Oui. J'ai plein de gens à gérer en dessous de moi, des fois aussi au-dessus, mais là, c'est filmé.
Ah oui, c'est autre chose.
Oui, je parle de sexualité, Mathieu.
D'accord.
Rapport aux vidéos pornographiques que je tourne. D'ailleurs, c'est quoi cette lumière rouge là-bas? Là, c'est filmé ici? Vous faites des tournages ici? Pourquoi vous m'avez invité? C'est un piège, en fait, c'est ça. Mais vous vous êtes piégé vous-même, vous avez tous gardé vos vêtements. Après, pourquoi pas? Est-ce que c'est solide cette table? Je sais pas. On est combien là? 1, 2, 3, il manque Cyril, on est 6. Ouais, bon, après, faut voir. Hein. Moi, je dis souvent tous ensemble, mais un par un. Ça tiendra peut-être pas ici. Bref, non, ah bah, j'ai reçu encore un message d'un fan. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est Quentin L. Il veut que je simule une interview micro-trottoir avec un masque de Sébastien Lecornu. Trop chelou ce Quentin, quoi. Encore là, ça va, il est soft aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes qui m'écrivent. Vous savez, sauf qu'elles culpabilisent et ça c'est trop dommage, arrêtez de nous faire culpabiliser. D'ailleurs pour celles qui veulent des alternatives, j'enregistre aussi des histoires érotiques où là on est plus sous un prisme de domination masculine, masculine, j'arrive pas à le dire. Et d'ailleurs je peux parler avec ma vraie voix parce qu'en fait j'ai aussi une voix normale, c'est juste que dans l'imaginaire collectif, la voix naïve et la soumission, bah, ça rapporte même beaucoup plus. Les hommes croient qu'ils ont l'ascendant, genre. Mais en fait je ferai pas ça toute ma vie parce que là vous voyez j'ai 25 ans et franchement je sens que ça commence déjà à tirer.
Vous êtes sûre que vous avez seulement 25 ans, Lisa?
Lisez la relance, Mathieu. Hein, j'y ai passé du temps, c'est bien écrit. Comme mon spectacle, d'ailleurs, j'en profite, qui est très bien écrit, qui se joue tous les mercredis à la Nouvelle Scène, à Paris. Je le dis parce que vous le dites toujours à la fin, quand plus personne n'écoute, alors je le passe ici. Vous voulez me demander si j'ai des passions, Mathieu, pour qu'on reprenne l'interview?
Oui, est-ce que vous avez des passions, Niki?
Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette question, Mathieu? Vous voulez quoi? Que je dise tout? Je filme déjà tous mes ébats, je vais pas non plus vous dévoiler mon intimité. Vous voulez aussi mon code de carte bleue à 14-12, voilà. Non, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, j'adore la pâtisserie, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'excite énormément. Une bonne religieuse bien fourrée, j'adore. Je parle de pâtisserie, Mathieu.
Oui, j'avais compris, bien sûr.
Jamais je dirais sur une radio nationale que j'adore les religieuses bien fourrées. Ça va pas, non? Non, vraiment, je rêve d'ouvrir une pâtisserie concept store, un lieu à moi avec plein de gens dedans. Parce que vous savez, les écrans, bah, c'est bien, mais c'est quand même, c'est rien qu'un pansement contre la solitude. Rien ne vaut mieux que de se voir toujours en vrai. C'est plus important dans la vie.
Vous avez Quentin L face à vous.
Quentin L?
Oui.
Bon, moi, je vais chercher le masque de Sébastien.
Merci beaucoup, Lisa Perriot. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Vous l'avez dit, vous êtes en spectacle les mercredis à Paris et en tournée un peu partout en France. Je le dis, même si apparemment, selon vous, plus personne ne m'écoute du moment que vous avez cessé de parler. Merci, Jeanne Roussel, de nous avoir éclairé sur le rapport des filles au porno. Je rappelle votre livre enquête Pornographie, comment les femmes consomment du porno. C'est aux éditions d'Alva. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Zoom Zoom Zen.